Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux d'accueillir aussi les guides scouts unitaires de France qui, courageuses, ont passé la nuit sous tente. Voilà. Merci aussi à chacun de vous d'être là, de répondre à l'appel du Seigneur. C'est le dimanche de la parole de Dieu. C'est institué par le pape François. Bien sûr, tous les dimanches, c'est le jour de la parole. Il y a un dimanche plus particulier pour sensibiliser notre attention à la présence du Seigneur dans sa parole. C'est très important parce qu'il y a une action particulière du Seigneur dans sa parole qui est lui-même, qui se donne à travers sa parole et aussi dans l'Eucharistie. Bien, reconnaissons devant le Seigneur que nous avons une dette, une très grande dette de reconnaissance dans le don de lui-même, le don de Dieu à travers sa parole, qui est une parole de vie. Bien, entrons dans l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Et Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la procession d'entrée. Donc j'ai porté l'évangile, et cet évangile, qui est la parole de Dieu, je l'ai déposé sur l'autel. Le symbole est très fort, ce qui veut dire que la parole de Dieu nous conduit à l'Eucharistie. Parole de Dieu, c'est vraiment la présence de Dieu, et nous communions au corps et au sang du Seigneur, qui est une parole de vie pour nous. Or, nos paroles à nous. Il y a peu, lors d'un voyage, je me trouvais entre des gens qui étaient italiens, et pendant tout le voyage, qui a duré plus de 2 heures, l'échange des paroles était extrêmement soutenu, qui n'a pas baissé pendant plus de 2 heures et demie. Et au bout d'un moment, je me suis endormi. Incroyable notre capacité d'entretenir une parole. Je ne sais pas ce qu'il racontait, mais je me disais en moi-même, mon Dieu. Il n'y a pas eu une seconde d'interruption. Nous avons une capacité d'endurance de ce côté-là. Il peut faire moins 20, ça ne change pas le débit. Contrairement à l'eau qui gèle. Nous savons que nous avons 5 sens naturels qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Ce sont 5 sens d'accueil. On dit que c'est des portes d'entrée pour appréhender le réel, nourrir une pensée dont notre parole ne sera que la résultante, et Dieu sait si nos paroles sont très abondantes. Et pourtant, nous ne disons pas que la parole est un 6e sens. Or, il n'y en a qu'un qui soit parole, avec un P majuscule, c'est le Christ, le Verbe, c'est-à-dire la parole, le Verbe fait chair, C'est la parole éternelle du Père. Et cette parole est une lumière et elle est vie. Lumière née de la lumière venue en ce monde pour éclairer tout homme. Et donc, la parole de Dieu, nos cinq sens, ce sont des sens d'accueil de cette parole qui est là pour porter du fruit en nous. Et nous avons entendu avec Isaïe, qui a été répété cette phrase dans l'Évangile, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui gisaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Il y a un philosophe qui s'appelle Michel Serres qui affirme qu'avant la venue du Christ, nous étions dans la civilisation de la nuit, c'est-à-dire une civilisation d'angoisse. On ne savait pas très bien ce qui se passait après la mort. D'où, pour les Égyptiens, notamment les pharaons, qui pensaient que tant qu'il resterait quelque chose de leur corps, eh bien, ils continueraient à exister dans le temps. D'où ces pyramides qui sont des cryptes, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment impénétrables pour pas que leur crypte soit violée et qu'il reste quelque chose, et ça leur donnait l'impression qu'ils pouvaient durer dans le temps. Or, avec le Christ, la venue du Christ, nous dit Michel Serres, nous sommes entrés dans la civilisation du jour. Car le Christ est la résurrection et la vie, et depuis que le Christ est venu, il nous a révélé, et le Père et l'Esprit, c'est-à-dire cette vie en Dieu à laquelle nous sommes appelés. Et le Christ est ce soleil vivant, la résurrection et la vie. Or, cette présence de Dieu s'est manifestée de deux façons au peuple élu, ce peuple choisi qui a été visité par Dieu. Donc, d'une part, c'est manifesté par la table des 10 commandements, c'est-à-dire les 10 paroles que contenait l'Arche d'Alliance. Et d'autre part, ce peuple, lors de la traversée du désert, était précédé d'une nuée lumineuse. La parole est lumière et vie. Parole et lumière, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ainsi, le psalmiste chante « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Et cette lumière nous est révélée dans la parole de l'Évangile. Comme nous l'avons entendu, pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Une lumière s'est levée. Et à partir de ce moment, Jésus commence à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Ce royaume révélé, c'est Jésus lui-même. Et la parole de Jésus, qui est lumière et qui chasse les ténèbres, est un appel à sortir des ténèbres par la conversion. Car le royaume des cieux, c'est lui-même. C'est-à-dire, il se fait... au sens propre du mot, une métanoïa, un changement dans la manière de penser, un changement d'esprit, la transformation de l'âme. La conversion, ce renouvellement de l'homme intérieur et l'idée de repentir et de pénitence ne sont que des applications et illustrations de l'invitation de Jésus à se tourner vers lui, à avancer vers la lumière. Le Messie nous invite à nous convertir à la lumière de la vérité de sa parole et à la béatitude de l'amour. C'est cela. Donc la première conversion consiste à ouvrir son cœur, c'est-à-dire à accueillir cette parole, à croire au verbe d'amour. Dans la mesure où la foi est liée à la conversion, elle est l'opposé de l'idolâtrie. Elle est une rupture avec les idoles pour revenir au Dieu vivant au moyen d'une rencontre personnelle. C'est une rencontre personnelle. Et quoi signifie s'en remettre à un amour miséricordieux qui accueille toujours et pardonne, soutient et oriente l'existence, ça donne un sens à notre existence. Et la foi consiste dans la disponibilité à se laisser transformer toujours de nouveau par l'appel de la parole de Dieu. d'où l'importance chaque jour de fréquenter, d'accueillir la parole de Dieu qui est une présence de Dieu. Et saint Paul dénonce justement les divisions qui déchirent l'église de Corinthe. Ce sont des querelles de mots de personnes qui apparaissent lorsque la lumière du Christ, la parole de Dieu, est abandonnée au profit de luttes intestines, ce qui réduit à rien la croix du Christ, dit-il. Il nous faut donc être vigilants, être fidèles à la parole de Dieu, accueillir, méditer quotidiennement. Elle est notre nourriture pour la vie. Dès que la parole disparaît, ce sont des paroles d'hommes qui font place, d'où ensuite les dissensions, les prises de position et tout ce qu'on veut. Et la parole de Dieu a vraiment nourri la foi de générations entières. Elle en a fait des saints qui s'en sont nourris avec constance. Et le Concile Vatican II, dans la Constitution Dei Verbum, dit ceci: il est nécessaire que tous conservent un contact continuel avec la Sainte Écriture, à travers une méditation attentive, et qu'ils se rappellent que la lecture doit être accompagnée par l'oraison. Il ne suffit pas de lire, il faut s'en nourrir. C'est certainement l'Esprit Saint qui a voulu que cette forme d'écoute et de prière sur la Bible ne soit pas perdue à travers les siècles. La présence de Dieu parmi nous, c'est sa parole. Alors est-ce bien sérieux d'aller au Seigneur dans la prière seulement quand il y a un trou dans nos engagements, comme si le Seigneur était un bouche-trou? Nous connaissons ce refrain: je n'ai pas le temps. Et souvent j'entends ça. Et pendant le temps de la journée, ce temps est à notre service. Nous ne devons pas être l'esclave du temps. Bien que les paroles et les images virtuelles n'étouffent pas la parole, en cela aussi, il nous faut être vigilants. Si les paroles et les images quotidiennes sont si abondantes, envahissantes, quel primat peut avoir concrètement la parole de Dieu sur elles? Celles-ci, par leur ampleur, ces paroles humaines peuvent étouffer la voix divine et ne pas permettre que celle-là croisse et donne son fruit. Eh bien, ce dimanche de la parole de Dieu nous demande de ne pas rester un dilettante, un écoutant paralysé en face de ce qui devrait être un vrai chemin de conversion. Chaque jour, dans la parole du Seigneur, elle nous crie: « Oh, si vous écoutiez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Le cœur dur trouve dure la parole de Dieu, et cela peut arriver aussi aux croyants. Cette parole est dure qui peut l'entendre. Demandons alors au Seigneur, pour toute personne dans laquelle le cœur est un symbole, un cœur large, un cœur qui écoute, comme Salomon l'a demandé au Seigneur, il avait demandé la sagesse. Bien, c'est le Saint-Esprit qui a présidé à la génération de la parole. C'est lui qui l'a faite. Marie l'a écoutée et s'est incarnée en elle. Une parole parlée, parole écrite à travers les prophètes, les sages, les évangélistes. C'est lui qui l'a donnée à l'Église. Nous recevons cela comme un trésor. Il l'a fait venir intact jusqu'à nous. Bien inspiré par l'Esprit Saint, seul ce même Esprit peut la rendre compréhensible. C'est l'Esprit qui donne la vie. Eh bien, accueillons-nous aussi la parole et elle a chanté en Marie. C'est pour ça qu'elle disait: « Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son cœur est un lieu liturgique, toute sa personne est un temple. » La parole de Jésus est un appel, une commission, une communion est une mission. C'est ainsi que la parole a généré les vocations, cet appel de Pierre, de Jean, de Jacques et des autres disciples. Lorsqu'ils ont entendu la parole du Seigneur « Suivez-moi », eh bien, ils ont répondu. Et demandons au Seigneur cette écoute, cette docilité du cœur, cette rencontre avec le Seigneur, cette nourriture, afin que nous puissions en communier à son corps et à son sang en vérité, afin qu'il devienne, que nous devenions sa présence, son temple, que nous puissions le transpirer dans nos gestes, nos paroles, notre agir humain. Amen.